introduire.
Oui.
Je vais donc introduire nos collègues.
Ah
bon. C'est mieux comme ça ou pas ? Bon.
Il faut les faire taire aussi. Ah oui, ça m'aide.
Bien. Alors, je vous remercie. Je vais refaire mon petit speech d'intro. Je vous remercie à toutes et à tous d'être venus si nombreux pour échanger sur un sujet qui nous tient tous à cœur, le financement de l'action internationale des collectivités territoriales dans un contexte économique que l'on connaît qui est compliqué, dans un contexte budgétaire qui est compliqué, avec des baisses des dotations de l'État. Et là, je parle sous le contrôle de monsieur Chollet, qui connaît bien la question. Baisse des dépenses de l'AFD, baisse des dépenses de l'État, et on demande aux collectivités de faire plus, de faire mieux avec moins. Et pour autant, l'action internationale des collectivités françaises est de plus en plus importante parce que c'est un très bon relais pour nos collectivités, pour l'attractivité de nos collectivités et aussi un moyen de faire du terrain plus proche des préoccupations des citoyens à travers le monde. Pour animer cette plénière, je vous passerai la parole à Véronique Berthold, qui est adjointe à la ville de Strasbourg en charge des relations internationales, Jacques Cabanne, adjoint au maire chargé de la ville de Billière, chargé de l'international et de la coopération décentralisée, Madame Armelle Guillaumard, qui est experte nationale détachée auprès de la Commission européenne en charge des secteurs autorités locales, Atanaska Guyodo, qui est directrice adjointe des programmes et territoires de France Volontaire, pour nous parler des VSI, Jean-Jacques Elouin, le directeur général du CODATU, et Jean-Jacques, vous nous expliquerez ce que c'est le CODATU, cette formidable association, Guillaume Tauvron, qui est le directeur du développement Planète Urgence, et Magali Combe, qui a organisé cet atelier avec Yohann. Voilà, sans perdre de temps, je vous propose de passer premier axe de cet atelier, comment mieux mobiliser les financements existants, notamment l'exemple de la loi Houdin-Santini et la mobilité urbaine.
Merci, je vais me mettre debout. Puisqu'il me revient finalement de vous introduire cette thématique avec un tout nouveau financement, ce que tout le monde recherche, au potentiel important, et que pourtant personne n'utilise jusqu'à présent. En fait, le 1% mobilité urbaine, ça n'est que le quatrième des 1% solidaires. Donc on va vous les montrer ici. Il y a déjà une histoire ancienne, hein, puisque le 1% eau et assainissement, que tout le monde connaît, il a une vingtaine d'années. Il permet de lever chaque année une trentaine de millions d'euros. Ensuite, on a eu d'autres dispositifs, le 1% énergie, le 1% déchets. Et en 2021, dans la loi de lutte contre les inégalités mondiales, il y a eu l'adoption du 1% mobilité urbaine, qui a été promu par CODATU et nos alliés du GART. Le GART, c'est le groupement des autorités des transports en France. Il y a à peu près 750 autorités de transport en France, dans chaque ville. Et donc, on a fait un lobbying maximum pour que ce texte passe, et il est passé. Le potentiel du 1% mobilité urbaine, il est probablement plus important que celui de tous les autres, hein, puisque le budget des autorités de la mobilité, c'est dans les 40 milliards d'euros par an. Alors, vous verrez, dans le texte, il faut retirer le versement mobilité, donc on peut peut-être diviser par deux, mais vous pouvez faire le calcul vous-même. Ça fait des montants potentiellement importants. Pour l'instant, aucune collectivité ne l'a utilisé. Sauf qu'il y a une délibération, il n'y a pas très longtemps, de Bordeaux Métropole qui commence à l'adopter, mais qui ne l'a pas encore mise en œuvre. Alors, les coopérations décentralisées en matière de mobilité urbaine, c'est assez particulier. Ce n'est pas ce qu'on cite le plus souvent à Cités Unies France, ce n'est pas ce qu'il y a de plus présent quantitativement, mais historiquement, ça existait. Depuis même l'origine de CODATU, dont je vous dirai un mot si vous le souhaitez, en 1980, avec l'ancêtre de Cités Unies France, c'était des coopérations entre villes et les transports. À l'époque, on ne parlait pas de mobilité, mais on parlait de transport urbain. C'était un sujet évident de coopération entre des grandes villes. Et donc, c'est un peu paradoxal de se dire que ce 1% mobilité, il arrive après les autres et qu'il soit aussi peu mis en œuvre. Mais il existe des coopérations historiques en matière de mobilité urbaine. Je vous en mets trois ici. Et puis la métropole de Strasbourg pourra développer le cas de sa coopération avec Kairouan et Madia en Tunisie. Ce sont des coopérations en général assez ambitieuses parce que effectivement, dès qu'on s'attaque à la mobilité urbaine dans une ville, ça suppose du temps long et puis un accompagnement des collectivités assez important. Alors comme je vous le disais, le GART qui est notre propre partenaire, qui est peut-être assez peu connu ici, hein, c'est le groupement de quasiment toutes les autorités organisatrices de la mobilité en France. Ce qu'on constate, c'est que pour l'instant, personne n'a utilisé ce 1%, bien que ça fasse maintenant plus de 3 ans qu'il a été adopté. Il y a un certain nombre de raisons à ça. Et, en tout cas, Codatu a proposé un dispositif pour faciliter les choses, parce que évidemment, les autorités locales françaises peuvent mettre en œuvre leur propre coopération décentralisée si elles le souhaitent, mais Codatu propose, pour celles qu'ils voudraient, une mutualisation, en se disant peut-être que c'est trop complexe pour certaines autorités de mobilité d'agir à l'international directement, sans intermédiaire. Donc Codatu se propose de mutualiser sur un certain nombre de projets que nous avons en stock, parce qu'on reçoit énormément de demandes. Je vais vous en montrer quelques-unes. Exemple assez emblématique, une ville à Madagascar qui a tout le potentiel pour devenir la capitale du vélo en Afrique, parce qu'aujourd'hui, il y a énormément de vélos et de cyclopousses. Mais c'est parce que c'est une ville très pauvre, Antsirabe. Et ben, avec un peu d'accompagnement, il y aurait moyen d'améliorer énormément les conditions de déplacement des habitants de cette ville, quoi. Donc, c'est des petits moyens. Dans ce cas-là, alors, quand on parle de 1% mobilité urbaine, aussi, ce qui est important à préciser, je pense qu'il ne s'agit pas de financer de l'investissement dans des infrastructures de transport. Il s'agit essentiellement d'accompagner les autorités locales à avoir les bonnes politiques, à former leurs cadres, à développer des systèmes de transport intégrés, mais pas de financer de l'infrastructure. Ça, nous travaillons quotidiennement avec les grands bailleurs internationaux, et il y a de l'argent. Mais ce qu'il n'y a pas, c'est des autorités locales capables de définir leurs projets. Donc Antsirabe, c'est la mairie d'Antsirabe qui est totalement démunie sur ces sujets-là, qui a besoin d'accompagnement pour faire de sa ville un exemple de ville du vélo en Afrique. Voilà. C'est un exemple. Autre exemple, Conakry. Voilà, il y a une toute jeune autorité organisatrice de la mobilité, qui est courageuse, mais qui vraiment est perdue face aux immenses problèmes de mobilité dans cette ville, qui est une ville tout en longueur, tout en ligne droite, donc avec des sujets complexes de mobilité. Il y a besoin de renforcer, de formation. Mais aujourd'hui, on n'arrive pas, nous, Codatu, à les accompagner. Il y a d'autres sujets, comme les formations des chauffeurs de bus un peu partout en Afrique. Mais le sujet des autorités organisatrices de la mobilité en Afrique, il est nouveau et il est crucial du point de vue de Codatu. Il y a une toute jeune association africaine des autorités organisatrices de la mobilité qui regroupe les grandes villes comme Dakar, Lagos, 24 millions d'habitants, Lagos, plus 1 million par an, Abidjan, Nairobi. C'est une vingtaine de villes qui représentent plus de 100 millions d'habitants. Eh ben, elles sont en train de se structurer, mais elles sont totalement démunies, en réalité, sur ces sujets-là. Il y a des pays où il n'y a pas une seule personne compétente sur le sujet de la mobilité urbaine. On a travaillé avec la mairie de Niamey, au Niger. Il a cherché un directeur de service des transports urbains. Dans tout le Niger, il n'a pas trouvé une personne. Donc, c'est des sujets qui restent sur lesquels les compétences et les ressources humaines restent très rares dans pas mal de pays. Donc, il y a besoin d'accompagnement. Donc, voilà, quelques exemples concrets. Mais, et pour conclure, à Codatu, nous, ce qu'on pense, c'est que sur ces sujets de la mobilité, il y a besoin vraiment de développer une approche la plus systémique et intégrée possible dans la durée. Et c'est là que la coopération décentralisée a une valeur ajoutée vraiment cruciale pour accompagner dans la durée des autorités locales. Et ce n'est pas que de la coopération décentralisée au sens classique. Nous, on mobilise aussi les autorités françaises pour faire du mentorat, pour faire des visites techniques, que ce soit d'ailleurs en France, ou ça peut être aussi les accompagner pour faire du sud-sud, sur des questions de formation en présentiel ou en distanciel, des communautés de pratique, la participation à des clubs avec des visioconférences régulières, etc. Voilà ce que je voulais vous dire très rapidement, parce que je sais que le temps est très limité. mais on pourra répondre aux questions éventuelles sur le sujet. Et donc, comme excellente illustration de ce sujet, de l'action internationale en matière de mobilité urbaine, le cas de Strasbourg nous semble particulièrement pertinent.
Merci, merci beaucoup pour cette présentation du 1%. Bonjour à chacune et à chacun. Et merci à CUF pour l'invitation. Alors effectivement, on n'est pas beaucoup de villes à travailler les questions de mobilité urbaine dans les coopérations internationales. Et l'exemple que je vais vous présenter, même si on a parlé du 1%, on ne l'avait pas mobilisé à l'époque pour faire le projet. C'est un projet ambitieux, complexe, mais qui avait bénéficié d'un financement européen. Que j'aime bien citer, de la Commission européenne DG INPA, une ligne budgétaire qui s'appelait les partenariats pour les villes durables. Alors malheureusement, cette ligne n'existe plus. C'était la seule ligne qui permettait aux collectivités locales d'avoir un accès direct à des financements européens. Donc 3 millions d'euros, un projet conséquent, sur 4 ans, pour développer les mobilités actives dans deux villes en Tunisie, donc Kairouan, avec qui on était déjà en coopération, mais sur plutôt des questions culturelles, puisque Strasbourg et Kairouan sont labellisés UNESCO. Et Kairouan, ça avait commencé comme ça, avec une coopération autour de la Médina et de la très vieille ville. Et comme on a aussi, nous, un très vieux centre-ville, bon, c'était parti sur ça. Et ensuite, Kairouan se sont rendus compte qu'ils avaient des énormes problèmes d'accès au centre-ville, de surtourisme, d'où la question des mobilités qui est arrivée après. Kairouan avait une histoire avec le vélo. On a retrouvé énormément de vélos chez les habitants des Kairouan. Et voilà, bon, Strasbourg est une des villes pionnières en termes de kilomètres de pistes cyclables. Donc c'était un peu notre axe, développer les mobilités actives. Kairouan a ramené dans le partenariat une deuxième ville, Madia. Donc Kairouan, c'est dans les terres. Et Madia, c'est au bord de la Méditerranée. Pareil, une ville touristique, un très beau centre-ville, et puis un potentiel énorme de promenades le long de la corniche, des paysages magnifiques, mais voilà, tout se fait en voiture. Il n'y a pas un chemin piéton, il n'y a pas même pas un trottoir. Donc la coopération a commencé là-dessus. The Elephant in the Room, c'est comme ça que la délégation de l'Union européenne basée à Tunis a qualifié la thématique de notre projet. Donc notre projet s'appelait Autrement, et c'est rigolo d'être invité à en parler, mais Autrement, c'est un acronyme pour Aménagement urbain du territoire pour réinventer les mobilités et engager les Tunisiens et Tunisiennes. Donc ça fait, on avait trouvé pour chaque lettre. Donc pourquoi travailler les questions de mobilité active dans des coopérations ? Parce qu'en fait, c'est un levier très puissant de changement qui va déclencher beaucoup de choses par ricochet. Donc on travaille les questions évidemment d'adaptation au changement climatique. Ça, entre Strasbourg et la Tunisie, c'était assez évident. La chaleur, les questions de pollution. Et puis, on aborde aussi les questions, je l'ai dit, de surtourisme, les questions de santé, les questions de droit à la ville, tout simplement, et notamment dans le droit à la ville, pour les femmes, l'accès, en fait, à l'espace public et la place des femmes dans l'espace public. Donc, on a démarré en 2020, en juin 2020, sur une durée de 4 ans. Alors, c'était développer les mobilités actives, mais en activant aussi la mobilisation citoyenne et la participation citoyenne à Kairouan et à Madia pour redéfinir des espaces urbains. Alors, je ne vous cache pas qu'on a commencé en plein Covid, juin 2020. Donc, il y a eu énormément de retard dans la mise en route du projet, des retards d'exécution, des changements de programmation. Alors, on a eu le Covid en 2020, 2021, presque encore jusqu'en 2022 pour la Tunisie, c'était très, très compliqué. Et puis, surtout, une forte dégradation de la situation politique en Tunisie, avec, comme vous avez suivi, la destitution des maires et puis la dissolution carrément des conseils municipaux en mars 2023. Ce qui fait qu'à la moitié du projet, moi, j'avais plus d'homologues, j'avais plus d'élus, j'avais un siège vide, j'avais le gouvernorat... Mais c'est pas la même chose. Sachant que, en filigrane du projet, même si on parlait de mobilité active, une idée derrière la tête, c'était la montée en compétence de toute une nouvelle génération d'élus arrivés après le printemps arabe, donc 2011-2020. Tous ces nouveaux élus, notamment des femmes, évidemment, qui sont entrées en politique. Un des objectifs du projet, c'était aussi de les faire monter en compétence, notamment sur des questions pas faciles, les questions des mobilités. Donc, au fur et à mesure du projet, on a vraiment senti qu'on repartait en arrière. Alors, on a dû revoir à la baisse nos déplacements. On a fait moins de déplacements que prévu sur place, déplacements politiques ou techniques. C'était bien pour le bilan carbone du projet, cela dit. On a dû réaliser moins d'aménagements que ce qui était prévu, parce que là, c'est l'État tunisien qui s'est opposé à certaines réalisations, alors que les communes étaient prêtes. Par exemple, Madia voulait une piste cyclable pour relier le centre-ville au cimetière marin, qui est un endroit magnifique, presque aussi beau que celui de Sète. Et puis, un aménagement cyclable revu à la baisse aussi à Kairouan, parce qu'il y a eu énormément de difficultés, des élus qui ont démissionné, et puis une grande frilosité des commerçants par rapport à des pistes cyclables. Peut-être ça vous dit quelque chose. Voilà, on s'est rendu compte qu'on vivait en stéréo les mêmes choses en France ou en Tunisie, les mêmes débats sur est-ce qu'on peut mettre une piste cyclable ici, est-ce qu'il faut en mettre une, qu'est-ce que ça va faire pour les commerçants, qu'est-ce que ça va faire pour les habitants. Donc voilà, l'ampleur des difficultés rencontrées. Malgré tout, c'est un projet novateur, audacieux. On a de l'ensemble du consortium, l'avis était très très positif. Donc on l'a pas fait seul. On était trois collectivités partenaires, Strasbourg, Kairouan et Madia. Et puis on avait trois associations partenaires, donc le CODATU, le CEREMA et ALDA, qui est l'Agence des démocraties locales. Alors, on a fait énormément d'échanges entre pairs. Donc ça, on a pu le faire aussi même à distance, notamment pendant la période Covid, pairs, P-A-I-R-S, entre élus, des ateliers de travail, des formations, des événements grand public, parce que quand on dit, qui dit participation citoyenne dit ben, sensibilisation aux habitants et habitants. Il fallait amener cette nouvelle thématique. C'était, par exemple, la première fois qu'il y avait une assemblée citoyenne à Kairouan ou à Madia, sur des questions de mobilité, sur des questions d'urbanisme. On a fait plus de 15 formations autour des thématiques, 3 visites d'études, dont 2 en France et 2 en Tunisie, des ateliers multi-acteurs, des consultations citoyennes, donc plus de 8 consultations, 700 participants en tout. On a réalisé un guide sur comment organiser une participation citoyenne sur les questions de mobilité, des animations d'initiation vélo, un concours photo, tout ce qui pouvait être grand public, une journée sans voiture à Madia, ça c'était aussi une grande première. Un rapport sur les mobilités urbaines à Madia et un plan de mobilité urbaine durable et partagé à Kairouan. Et puis des services vélos, donc l'équivalent de services vélos comme on peut avoir, des associations qui se sont emparées de la thématique apprentissage du vélo, réparation de vélo. Donc on a eu plus de 10 aménagements tactiques réalisés dans les villes de Kairouan et Madia, des rues-écoles, des pistes cyclables. Et là encore, c'était assez intéressant pour nous parce qu'on faisait la même chose à Strasbourg, c'est-à-dire qu'on avait aussi des rues-écoles qui sortaient, on avait aussi des aménagements tactiques. Donc on avait parfois les mêmes discussions, les mêmes ateliers en parallèle. Alors après, ça c'est tout ce qui se voit, tout ce qui est sorti de terre, tout ce qu'on ne voit pas, c'est tous les échanges qu'on a pu avoir. Ça c'est très précieux, les échanges interculturels, les échanges entre élus, entre pairs. Pour ma part, je suis évidemment très triste que de ne plus avoir d'homologue en Tunisie. Je ne sais pas pour combien de temps, vous savez qu'il n'y a toujours pas d'élection locale prévue en Tunisie. Chaque année, c'est reporté. Mais je me dis qu'on a quand même semé des graines. Que ce nouveau personnel politique pourra se réemparer de ces questions-là. Pour l'instant, c'est le technique qui a pris la suite, dont le projet continue d'avancer. Je suis convaincue que les transformations engagées sont irréversibles et qu'on a réussi à Strasbourg, comme à Kairouan ou Madia, a imposé l'idée qu'il y a un droit à la mobilité pour toutes et tous, grâce à des pistes cyclables, des cheminements piétons, des espaces urbains apaisés. Et que ce droit à la mobilité, même s'il est toujours contesté, il est quand même accepté a posteriori. C'est-à-dire après, on ne revient plus en arrière sur des aménagements qui apaisent une ville. Voilà. Donc malgré les difficultés et malgré les montagnes russes émotionnelles de ce projet, voilà, le bilan est quand même très très positif et je vous encourage à vous emparer de cette question des mobilités dans les coopérations. Merci.
Merci Véronique, merci Jean-Jacques pour cette présentation de ce dispositif qui est relativement assez mal connu, la loi Houdin-Santini. J'aurais une première question, pourquoi il est si peu utilisé et quels sont les freins que les collectivités peuvent rencontrer ?
Merci pour la question. À mon avis, il y a plusieurs raisons. D'une part, la coopération en matière de mobilité urbaine apparaît comme très complexe et très politiquement délicate. On travaille, nous, à Madagascar, en ce moment, je viens de recevoir des messages. Tout remonte à la présidence de la République, qui a peur que les transporteurs artisanaux fassent une fronde et renversent le pouvoir. Donc, comme en France, en général, en France, on dit que plus de la moitié d'une élection locale dans les villes se gagne sur les transports. Je ne sais pas si les élus confirmeront, mais c'est quelque chose que j'entends souvent. Donc c'est quand même très politiquement chargé, très délicat comme sujet, très complexe, et c'est sur du long terme. Et puis donc la mise en œuvre ne peut pas se faire du tout de la même manière que le 1% eau et assainissement, où finalement ce 1% eau et assainissement finance une multitude de projets petits ou modestes ou moyens, mis en œuvre par des associations locales. Là, sur la mobilité, ça ne pourra pas fonctionner comme ça, en fait. C'est pour ça que Codatu a proposé cette mutualisation pour être plus fort, pour intervenir dans un nombre choisi de villes et dans la durée avec la force de frappe suffisante. Lagos, par exemple, ou Kinshasa, on commence à travailler avec Kinshasa, c'est 20 millions d'habitants plus 1 million par an. Donc si on débarque à Kinshasa pour aider le gouverneur sur ses problèmes de mobilité, il faut avoir quand même un peu d'énergie et de moyens. Madame rigole. Voilà, sujet complexe. Alors c'est peut-être ça la raison, mais n'empêche que sur le terrain, c'est des enjeux majeurs. Je rappelle que l'Afrique va passer de 700 millions d'urbains à 1,4 milliard d'ici à 2050. Les sujets de mobilité sont considérables pour la population au quotidien, mais aussi pour le changement climatique. Si l'Afrique se motorise comme l'Europe, tous nos débats en France sur le changement climatique sont perdus d'avance, en fait. Hein. Donc ça se passe essentiellement dans ces villes grandes et moyennes d'Afrique. Le changement climatique futur, c'est là que ça se passe, enfin, pour Codatu, en tout cas. Donc voilà, c'est cette complexité, mais en même temps, ce challenge qui fait peut-être que c'est plus difficile. Ah oui, l'autre raison, c'est que le 1%, la cible du 1%, les autorités qui peuvent le mettre en place, c'est les autorités organisatrices de la mobilité en France, qui, en général, considèrent qu'elles n'ont pas de compétences à l'international. Ce n'est pas les métropoles ni les services internationaux. Alors, évidemment, ces gens-là sont censés, normalement, travailler bien ensemble, mais on sait bien qu'il y a un cloisonnement. Et nous, on est confrontés à beaucoup d'autorités des transports en France qui nous disent « Mais ce n'est pas à nous de faire ça, c'est le service international de la métropole, c'est un autre service, donc ce n'est pas nous. » Donc, c'est un peu une difficulté aussi.
Merci pour ces explications. Est-ce que vous avez des questions pour nos intervenants ?
Oui, merci beaucoup pour cette présentation très intéressante. Je me demande aussi, est-ce qu'un des freins pour les collectivités, est-ce que ce ne serait pas notamment aussi la façon de comment valoriser ce genre de coopération qui se passe quand même beaucoup là-bas, sur le territoire ? Et on a parlé dans d'autres ateliers aujourd'hui du principe de réciprocité qui, certes, est une demande de plus en plus grande des bailleurs, mais aussi des citoyens, des habitants et même au sein de nos collectivités, des collègues, des élus, en fait, et on nous dit, ok, vous faites de l'international, nous qui sommes les techniciens de l'international, mais expliquez-nous pourquoi on doit financer ça, expliquez-nous quelles sont les retombées qu'on va pouvoir expliquer aux habitants. Donc vous avez effectivement votre projet, vous aviez déjà un partenaire avec lequel vous aviez des échanges culturels, vous l'avez mentionné, et ça, je pense que c'est une clé. Mais voilà, comment on accompagne, qu'est-ce qu'on peut faire aussi, quelles sont les options pour que ce projet puisse, ce genre de projet puisse vraiment bénéficier à tout le monde et qu'on puisse convaincre de la nécessité. Merci.
Alors, je peux répondre peut-être plus sur la partie comment on a amené le projet à Strasbourg, parce que c'est ça aussi l'enjeu. Il y a de la réciprocité dans ce genre de projet. Parmi les associations qui étaient partenaires, on a aussi sollicité une association de cyclistes, le cadre 67. On les a sollicités aussi. Donc, c'est eux qu'on sollicite à Strasbourg quand on fait des aménagements cyclables. Donc, on les a emmenés dans la coopération. On les a emmenés à Kairouan, à Madia. Et puis, on a fait venir les équipes de Kairouan et Madia à Strasbourg pour qu'elles viennent constater aussi que nos pistes cyclables sont loin d'être parfaites, que nous aussi, parfois, on a des petits problèmes de jonction entre deux pistes cyclables. Mais en tout cas, leur montrer comment ça se passe. Ce qui fait que l'association Cadre 67 est revenue avec beaucoup d'idées, notamment quand ils ont vu tout l'engouement autour des services vélos, ça leur a donné aussi d'autres idées. Ils organisent chaque année le défi au boulot à vélo. Donc ça, c'est pour tous les Strasbourgeois. Et pendant la coopération, ils avaient étendu, donc on enregistre ces kilomètres à vélo pendant tout le mois de juin et ensuite on gagne un prix, les trajets domicile-travail. Et bien, ces années de coopération, ils avaient étendu le défi à nos villes partenaires, Kairouan et Madia, pour dire là-bas aussi, ils font le défi à vélo. Donc il y a des petites recettes comme ça. Évidemment que ça ne va pas toucher tous les Strasbourgeois et Strasbourgeoises, mais en tout cas, il y a aussi une fierté pour des Strasbourgeois de se dire là-dessus on est regardé, ça on sait faire et ça peut servir à d'autres. Donc c'est vraiment de la valorisation. Ça, c'est sur l'aspect vélo, c'était facile. Sur l'aspect piéton, ville marchable, on était aussi en train de nous discuter de notre propre plan piéton, plan vélo. Donc, toutes les interrogations qu'il y avait à Kairouan, à Madia, on avait les mêmes. On avait les mêmes retours positifs ou négatifs, les mêmes interrogations de la population. Ça résonnait beaucoup. Donc ça a aidé aussi ma collègue l'adjointe en charge de la participation citoyenne. Elle est venue aussi sur un des déplacements à Kairouan et Madia pour se rendre compte d'une assemblée citoyenne en Tunisie, comment ça se passait. Et pareil, elle est revenue où les architectes des aménagements tactiques, c'était les mêmes que ceux qu'on avait contractés pour faire la nouvelle piste de tram. C'était les mêmes qui avaient été en Tunisie avec nous. Donc, en fait, on a travaillé avec les mêmes personnes à Strasbourg ou en Tunisie. Et parfois, de changer de contexte, ça remet aussi beaucoup en question les pratiques professionnelles, notamment quand il faut expliquer différemment, notamment quand il faut utiliser un peu moins de jargon. Parce qu'à Kairouan et Madia, les habitants avaient beaucoup moins l'habitude d'entendre ce que j'ai dit tout à l'heure, aménagement tactique, mobilité douce. On avait tout un débat, mobilité douce, mobilité active. il y avait des mots nouveaux. Et donc, il faut apprendre en tant que professionnel à faire des périphrases ou à être beaucoup plus clair ou apprendre à faire des plans qui vont parler à tout le monde. Tout le monde ne sait pas lire un plan. Tout le monde n'arrive pas à se projeter non plus sur des images en 3D. Donc ça a remis beaucoup les pratiques professionnelles de nos agents et agentes en question. Et puis après, on a aussi beaucoup utilisé, ça c'était l'atelier d'avant, on a utilisé beaucoup les réseaux sociaux, les vidéos. On a eu énormément de couverture presse en Tunisie, à Strasbourg un peu moins, très honnêtement. Mais en tout cas, oui, on a utilisé les réseaux sociaux, la vidéo, pour faire connaître le projet déjà en Tunisie. Il y avait aussi une fierté de ces deux villes à se lancer. C'était quand même des villes pionnières sur ces questions. Et puis la vidéo, c'est facile à utiliser ensuite de retour à Strasbourg.
Merci Véronique pour ces explications. Est-ce que vous avez d'autres questions ?
Oui, je vais être rapide. J'ai une petite question par rapport aux solutions techniques qui peuvent être proposées. En fait, est-ce qu'il y a besoin d'énormément d'adaptation pour trouver vraiment des solutions appropriables sur place, ou est-ce qu'on est plutôt dans un transfert voilà, de ce qu'on fait déjà ici? Enfin, est-ce qu'il y a un défi aussi par rapport à ça, notamment par rapport au fait d'impliquer des agents de collectivité, enfin des agents d'ici, d'experts, sur le fait qu'ils ne peuvent pas forcément transférer telle quelle leur préconisation.
Merci. Effectivement, ça, c'est un sujet récurrent. Nous, on fait très attention à ce qu'on ne fasse jamais du copier-coller, évidemment, du nord vers le sud. Par exemple, une grande particularité des beaucoup de villes dans lesquelles on intervient, c'est le transport dit artisanal ou informel ou illégal, c'est-à-dire les minibus, les tricycles, les tuk-tuk, voilà. Les taxis-motos aussi, parfois. À Douala, au Cameroun, c'est 120 000 taxis-motos. Donc là, évidemment, en matière de mobilité, et il n'y a pas de réseau de bus. Il n'y a plus qu'une quinzaine de bus qui roulent à Douala. Donc c'est complètement différent du système de mobilité d'une ville française. Et c'est des systèmes qui n'ont aucune subvention publique et qui roulent quand même. Hein. En France, il n'y a absolument rien qui roulerait sans d'énormes subventions publiques. Donc le contexte est effectivement tellement différent. Mais il y a aussi des similitudes très importantes. Il faut une autorité qui organise le système de mobilité, même s'il est informel, même s'il est artisanal. Il faut qu'il y ait des compétences, il faut professionnaliser le secteur. Il faut financer aussi, il faut trouver des solutions de financement dès qu'on veut du transport institutionnel. Donc il y a des sujets très différents, et là il faut qu'on fasse très attention à ne pas plaquer nos systèmes. Et il y a aussi des points communs qui font que, par exemple, dans nos bénévoles, on a l'ancien directeur général du Citral à Lyon, qui a développé le réseau des transports de Lyon depuis 30 ans. Et ben, à Dakar et à Abidjan, il est le mentor des directeurs sur place, parce qu'ils sont un peu comme à Lyon il y a 30 ou 35 ans. Ils ont tout le système de transport à construire. Et donc l'expérience de Lyon il y a 35 ans, c'est hyper précieux. Comment on fait en partant de quasiment rien pour développer un réseau de transport en commun ? Avec des budgets qui deviennent considérables. À Abidjan, le métro, c'est 2 milliards d'euros. Le BRT, c'est 700 millions d'euros. Donc, les budgets deviennent très importants. Donc, c'est comme ça, nous, qu'on essaye de développer, et surtout sans faire du copier-coller. Voilà.
Oui, surtout pas de copier-coller. Et en plus, c'est quasiment impossible. Enfin, nous, la façon dont on fonctionne à Strasbourg, c'est relativement confortable. Je disais, on a une direction des mobilités, on a une direction de l'aménagement, on a une direction de la participation citoyenne. À Kairouan et Madia, ça va être peut-être la même personne qui va devoir cumuler les trois fonctions et qui va devoir monter aussi en compétences. Apprendre à faire des plans et puis expliquer dans une assemblée citoyenne et puis faire chef de travaux. Et donc, ce n'est pas du copier-coller puisqu'on n'a pas du tout la même organisation administrative chez nous. Par contre, le copier-coller, ça va être sur les bonnes pratiques. Les choses qui marchent, on va les exporter ou les importer dans un sens ou dans un autre. Et pour nos agents à Strasbourg, par exemple, ils se sont rendus compte, alors qu'ils font des travaux toute l'année, tout le temps, c'est seulement en allant à Kairouan ou Madia qu'ils se sont dit « peut-être on peut améliorer la communication sur les travaux ». Les travaux avec une pancarte, de quand à quand ça va durer, de où à où ça va vous impacter. Alors que ça les avait jamais... Enfin, c'est étrange, mais c'est le fait de se déplacer, d'être dans un autre contexte, ils ont réalisé ce que ça impacte en fait sur la vie quotidienne quand on ne sait pas combien de temps ça va durer les travaux, pourquoi il y a des travaux à cet endroit-là, parce que ça n'a pas été expliqué, parce qu'on n'a pas reçu la lettre ou elle a été envoyée au mauvais endroit. Donc ça, il y a des petites choses comme ça, des bonnes recettes que l'un ou l'autre partenaire va développer, qu'on va pouvoir ramener à la maison, mais c'est jamais du copier-coller. Il faut toujours le réadapter à son propre contexte.
Il y a une dernière intervention. Enfin, une question, madame.
C'est Jeannette Ndjenje. Je suis chaire UNESCO Droits Humains RDC. Je remercie beaucoup monsieur Jean-Jacques. Le fait qu'il a dit, c'est une pratique illégale. À Kinshasa, c'est un casse-tête chinois avec le tuk-tuk et le moto. Je ne sais pas comment on peut intégrer le port des casques chez les les motards, parce que c'est le seul transport qui aide dans la gestion des embouteillages. Parce que pour quitter, vous savez, au niveau des santé planétaire, ça existe. Pour quitter Kinshasa, pour arriver à l'aéroport, si vous n'avez pas de moto ou de tuk-tuk, vous ratez votre Air France. Hein. Et je ne sais pas comment ce qu'on peut faire pour trouver une harmonie au niveau planétaire pour que le port de ne fût-ce que des casques soit intégré. Parce que, comme vous avez dit, il n'existe pas de responsables de mobilité. Cette technologie, cette modernité est venue comme ça nous trouver à la porte en tant qu'Africaine, cette modernité qu'on doit intégrer malgré nous, avec tout la vulnérabilité de l'être humain.
Juste un mot.
Merci Alain.
Juste un mot, et si vous voulez, on en discutera à part. Je vous expliquerai le projet qu'on est en train de monter avec le gouverneur de Kinshasa. Mais le sujet des taxis-motos, l'air de rien, il est crucial dans beaucoup de villes africaines où c'est le seul mode développé. C'est le cas au Cameroun, c'est le cas au Togo, c'est le cas au Bénin, par exemple, où la mobilité, c'est les taxis-motos. Ce qui coûte beaucoup plus cher qu'un système de minibus, par exemple. Parce que, en général, les bus et les minibus ont disparu. Les bus institutionnels, les sociétés de bus ont fait faillite dans la plupart des pays. Il en reste encore à Abidjan, par exemple, mais ailleurs, il n'y en a quasiment plus. Donc, le sujet, c'est ce que nous, on appelle la professionnalisation du transport artisanal. Donc, sur les taxis-motos, ça veut dire chasuble, casque, formation des chauffeurs, organisation. Mais si vous voulez, on en parlera après. Merci.
Merci à vous. Merci pour vos questions. Ce que je vous propose, c'est que le sujet est passionnant, de voir séparément Véronique et le directeur général du CODATU après, si vous avez des questions subsidiaires. Autre axe de financement pour nos actions internationales, c'est l'engagement citoyen. Et je me tourne vers Jacques Cabane et puis Athanaska Guiodo, donc Jacques Cabane, adjoint au maire de Billière, et Athanaska Guiodo, directrice adjointe des programmes territoires de France Volontaire. Donc si vous voulez mettre en lumière les VSI et notamment le programme TEVO.
C'est madame qui commence. Très bien. Oui, merci beaucoup. Donc moi, je vais vous parler du programme territoire volontaire. Vous avez beaucoup entendu parler aujourd'hui des volontaires. Et je pense que les témoignages ont été très positifs. Mais quelques mots d'abord sur le programme territoire volontaire qui facilite justement l'appropriation de ces dispositifs par les collectivités. Donc trois mots clés: faciliter, cofinancer et puis créer des espaces collectifs et une dynamique collective avec les collectivités. Faciliter pourquoi? Puisque territoire volontaire permet de mettre en œuvre les dispositifs, on a parlé de VSI, on a parlé de service civique à l'international, en mettant à disposition de la collectivité une association agréée qui maîtrise les dispositifs et qui va les accompagner tout au long de la vie et de la mobilisation des volontaires, avec une gestion déléguée financière, avec une gestion déléguée de l'accompagnement des volontaires et donc mise à disposition de ressources qui facilite l'animation des projets. Donc d'abord, il faut retenir ça. C'est vraiment un dispositif clé en main qui permet de faciliter l'appropriation de ces dispositifs. Et on sait combien parfois c'est difficile de déléguer des ressources, surtout dans une petite collectivité. Et ce dispositif s'adresse à tous les échelons, à toutes les collectivités, que ce soit des régions, des départements, des communes, des petites communes. Et on a aujourd'hui, depuis 3 ans, on a mobilisé plus de 150 collectivités avec ce programme, pour un total de 500 missions de volontaires. Donc c'est énorme et l'impact est vraiment réel et visible. Donc d'abord cet accompagnement tout au long de la mission et de la mobilisation des dispositifs. Deuxièmement, et c'est le sujet de notre atelier, financement, cofinancement. Donc avec les cofinancements au départ statutaires de ces dispositifs, avec l'apport complémentaire du programme territoire volontaire, le coût d'une mission est cofinancé à peu près à 70% par les financements que nous apportons dans le cadre de ce programme. Donc le reste à charge, et vous allez témoigner tout à l'heure avec des chiffres vraiment très concrets sur votre projet, une reste à charge à la collectivité autour de 30% hein, sur le coût total de la mission, ce qui est vraiment pas négligeable et qui permet à toutes les collectivités, comme je le disais tout à l'heure, de se saisir de ce dispositif. Ensuite, un espace collectif. Ça, c'est aussi très important. Et cet espace collectif qu'on crée avec ce programme, je vous disais déjà 150 collectivités, il se traduit à plusieurs niveaux. Au départ, puisque des collectivités peuvent se regrouper pour répondre à cet appel à manifestation d'intérêt à porter ensemble. Hein, il y a des projets de coopération décentralisée qui sont portés par plusieurs collectivités, donc un groupement de petites communes ou de communes de toute taille peuvent se regrouper et porter ensemble un volontaire qui va co-animer, animer avec les équipes des collectivités ces projets. Donc il y a cette idée de collaboration entre collectivités. Ensuite, le programme crée aussi des espaces collectifs de partage de compétences, d'expériences que nous, on anime, hein, France Volontaire, de manière régulière, avec des rencontres régulières, avec des témoignages, avec des webinaires. Donc, ça permet à toutes les collectivités de suivre et de s'inspirer aussi de ces dynamiques qu'apportent les autres collectivités. Donc, ça, c'est un autre sujet. Et puis, entre les volontaires qui sont déployés dans une région, dans un pays... J'étais au Cameroun il n'y a pas très longtemps, donc des volontaires déployés par la ville de Bordeaux et un autre volontaire qui arrivait pour représenter la ville de Paris, animer la coopération avec la ville de Yaoundé. Ils se sont rencontrés, ils ont partagé déjà leur expérience sur le terrain et c'est très enrichissant parce que ça permet de rentrer beaucoup plus vite aussi dans cette dynamique sur le territoire. Donc voilà, vous voyez, ces trois étapes, je pense qu'elles sont très importantes. Et le programme Territoire Volontaire, et je sais qu'il y a beaucoup d'entre vous qui ont déjà mobilisé ce dispositif,